Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet.
Bonjour, bonjour, voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour mon dernier cours de l'année. C'est annoncé sur le site du Collège, il y aura les 2 et 3 juillet, au 29 rue d'Ulm, un petit colloque. Co-organisé par le Collège, l'Université de Berkeley et l'Institute for the History of the Ancient World de New York sur les nouvelles avancées sur l'histoire et l'archéologie de la Sogdiane. Le colloque sera ouvert. Probablement l'année prochaine, je vais commencer par continuer sur le même répertoire parce que on l'aura pas épuisé cette année, et puis surtout les découvertes continuent, il y a assez régulièrement des nouveaux documents, et puis pour la suite de l'année, j'ai pas encore annoncé mon programme, probablement je parlerai d'un sujet plus technique qui sera les rapports entre l'Iran et l'Asie centrale, notamment à la période sassanide, et ça reposera aussi sur des documents figurés, mais également sur des nouveaux documents écrits en bactrien que je viens d'éditer avec Nicolas Sims-Williams. Donc, ça sera un peu plus dans la matière brute. Toujours à propos de cette extraordinaire représentation du Mahabharata dans une maison de Penjikent, les images couleurs avaient sauté à la dernière séance. Vous voyez, c'est l'ensemble de la scène principale avec le jeu de dés à droite et l'arrivée des vainqueurs de la bataille à gauche, à l'entrée de la ville. Voilà, ça c'est le jeu de dés. Vous pouvez voir quand même la remarquable qualité artistique, l'utilisation abondante du bleu de lapis lazuli. Ce n'est pas le cas dans toutes les peintures sogdiennes. Lapis lazuli, il n'était pas à côté, hein, il était en Afghanistan du Nord-Est. Mais il semblerait que depuis longtemps, même depuis l'époque achéménide, les Sogdiens avaient un circuit commercial avec les mines de cette région, et ils en avaient, ils l'utilisaient beaucoup. Quand on discute avec des spécialistes des enluminures dans la peinture occidentale, ils sont étonnés de ce très abondant usage du lapis lazuli, parce que c'est pas facile du tout à utiliser. C'est une pierre, il faut la broyer, il faut la mélanger à des solvants. On l'utilisait à dose assez homéopathique en Occident, et finalement on l'a remplacé au bout d'un certain temps par le bleu d'outre-mer qu'on obtenait de source, par l'indigo, hein, qu'on obtenait de source végétale. Alors là, il l'utilisait au litre. Alors, que vient faire, la question qu'on peut se poser évidemment, c'est que vient faire cette représentation du Mahabharata, représentation qu'on peut dire unique en dehors de l'Inde, hein, pour cette époque et puis pour fort longtemps, dans une maison de Penjikent. Alors, il y a peut-être un facteur lié à la personnalité du propriétaire de la maison. Car, revoilà la maison, le plan de la maison est assez atypique par rapport aux maisons aristocratiques de Penjikent. Souvent on voit des salons à 4 colonnes, voilà, ici par exemple, ça c'est absolument typique, des salons plus petits, où il y a des banquettes autour d'un foyer, on a dit pendant longtemps que c'était des chapelles domestiques, maintenant on n'y croit plus, plutôt des salons d'hiver, et puis cette grande pièce où a été trouvée la peinture, qui fait quand même 13 mètres sur 8, et qui a vraiment plutôt les dimensions d'une salle du trône. Il se trouve que, il y a des banquettes, deux rangées de banquettes en angle, là, deux étages de banquettes dans toute la partie sud de la pièce, et une autre partie avec des banquettes, une partie plus petite avec aussi des banquettes, et là au fond, sur le mur de fond, une grande image de la déesse, alors, enfin de divinité, en l'occurrence la déesse Nana, qui est la principale déesse de Penjiket. Alors, il se trouve que sur la grande estrade devant, on a trouvé des centaines de dés. Et ça rappelle évidemment l'image qu'on a là. Voilà. Alors, on a supposé au début que c'était le casino de la ville. J'expliquerai à la folie. On n'y croit plus, on n'y croit plus vraiment, plutôt que, bon, visiblement, le propriétaire avait un goût pour les dés et organisait des grandes parties de dés, et c'est un des motifs qui l'aurait amené à choisir ce répertoire. En tout cas, bon, il semblerait, le fait qu'il y ait une estrade semble indiquer qu'il y avait des représentations. Alors, peut-être musicales, peut-être même théâtrales. Alors, faisait-il venir pour représenter le Mahabharata, le Peter Brook de l'époque? Ça, on ne sait pas. Alors, par ailleurs, le choix du livre 4 du Mahabharata n'est sans doute pas fortuit, car c'est ce livre qui est en fait circulé le plus. Parce qu'il est dans cet énorme poème, il représente une sorte de parenthèse divertissante. Hein. Comme l'a bien vu Dumézil, c'est là où, sous leur déguisement, les cinq frères Pandava manifestent le plus clairement leur identité fondamentale, hein, distribuée selon les grandes fonctions sociales. Il y a beaucoup d'épisodes assez comiques, je vous en ai parlé, donc il y a celui, il y a le guerrier qui est déguisé en eunuque pour être professeur de chant des princesses, mais en fait, c'est pas vraiment, il n'est pas allé jusqu'au bout dans le déguisement d'eunuque, mais il arrive à donner le change, voilà. En plus, ce livre contient un épisode guerrier, celui d'ailleurs qui est conclu par cette scène-là, une attaque des guerriers, en fait, qui sont les ennemis héréditaires des cinq frères Pandava, ils sont les guerriers Kaurava. Et cet épisode guerrier est en fait une espèce de récit anticipé et réduit de l'interminable guerre qui va occuper toute la fin du poème. Il y a un livre entier, avec même deux, avec des récits de bataille. Alors, il se trouve aussi que, comme par hasard, c'est ce livre-là, le livre 4, qui a fait l'objet d'un résumé très réduit et très approximatif dans un traité persan, la lettre de Tansar, qui est enfin une espèce de récit édifiant pour les princes, qui remonte sans doute à un original Pélévi et qu'on a en fait dans une rédaction plus tardive. Alors, il y a d'autres récits indiens d'ailleurs conservés dans ce texte. Alors vous voyez, il est question ici, il y avait un roi qui s'appelait Jartal. Alors Jartal, ça vient en fait, si on tient compte de la mauvaise lecture des caractères Pélévi, qui sont parfois très ambigus, en fait c'est Yudhishthira, le chef des Pandava. Il y avait un roi qui s'appelait Jartal, qui croyait dans le sort. Et puis il a dû quitter son pays, et il est arrivé finalement chez le roi Kiransha. Alors, si on tient compte de la déformation des caractères, Kiran c'est Virata, le roi chez qui ils sont accueillis, et ils ont passé leurs jours sans dignité à son service, c'est-à-dire que ils ont dissimulé leur identité royale, et ils se mettent au service de ce roi parce que ils doivent, en fonction du sort qui est tombé sur eux, ils doivent passer un an complètement incognito. Donc, on voit que ce livre du Mahabharata avait circulé en Iran déjà au VIe siècle. Alors, évidemment, du coup, la question se pose, sous quelle forme est-ce que ce texte pouvait circuler en sogdiane, dans quelle langue que c'est été. Alors, est-ce qu'il y avait un support écrit? On sait que on a une traduction en langue en persan du Mahabharata, au moins en traduction, je pense, résumée. La plus ancienne connue, c'est le Rasmaname, c'est-à-dire le livre des combats, qui a été commandé à la fin du XVIe siècle par le grand mogol Akbar. Voilà. Mais il y a peut-être eu des versions iraniennes avant. On ne les a pas. Alors, autre détail intéressant, iconographiquement, on voit que le poème a été un peu naturalisé en milieu sogdien. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs locales indiennes. Hein. Tout ce qu'on a, c'est deux personnages, celui-là et celui-là, qui tous les deux... Alors, on va voir surtout sur le dessin, qui tous les deux appartiennent au groupe des cinq frères Pandava. Cela, Yudhishthira déguisé en Brahman et Arjuna déguisé en maître de danse. Bon, là, ils sont représentés comme des princes indiens avec leur chignon. Voilà. Mais, pour le reste, c'est vraiment de la représentation sogdienne. Même le roi Virata, chez qui ils séjournent, et qui est un indien. Et il est représenté comme un roi sogdien, avec exactement le même costume, le même type de couronne, vous voyez. Alors également, ce qu'on constate, c'est que voilà, les réalités sont vraiment des réalités sogdiennes. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, l'entrée de la ville, les maisons, c'est des maisons sogdiennes, c'est pas des maisons indiennes. Des maisons exactement comme celles qu'on a fouillées à Penjikent, qui d'ailleurs, cette peinture a aidé à reconstituer l'apparence qu'avaient ces maisons de Penjikent. Le porche avec une arche, des décors qu'on devine ici en briques sur ce mur représenté couleur rose-brun qui en fait représente la brique crue. Hein. Les balcons en bois, en encorbellement. Ça, c'est absolument typique de l'architecture de Penjikent. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, ces décors à faux merlons, c'est de l'architecture sogdienne, tout ça. Ce qui est également complètement indien, c'est... est-ce qu'elle est représentée là ? C'est la table de jeu, voyez ici, avec on va la voir mieux sur l'autre. Voilà, avec cette bande au milieu ici. Enfin, c'est pas un jeu, c'est pas une table de jeu d'échecs. C'est pas une table de jeu indien. Les analogies qu'on a dans l'art, c'est en Iran sassanide ou ailleurs en sogdiane. C'est une table de jeu de narde qui se joue au dé avec une grande bande ici et des bandes latérales et là sur les côtés on range les pions. C'est pas une table de jeu d'échecs indienne. Alors. J'en viens maintenant au répertoire du Panchatantra, donc les plus célèbres des recueils de contes indiens. Alors là, on peut dire que les correspondances entre les images de Penjikent et le texte sanskrit sont rarement complètes. Ça colle jamais vraiment complètement. Alors, ça peut s'interpréter soit par l'utilisation de variantes, de versions qui n'ont pas été conservées, soit par des adaptations délibérées de l'artiste. Et par ailleurs, Les sujets du Panchatantra qu'on identifie à Penji Kent se caractérisent par des ellipses vraiment extrêmes par rapport au texte. C'est vraiment de la charade. Il faut connaître l'histoire pour comprendre quelque chose. Alors, un bon exemple, c'est l'histoire du le lion qui représente, et le lièvre. Alors, dans le Panchatantra, on en a... c'est un récit qui se déroule sur pas mal de pages, et en fait l'épisode figuré ici, c'est que en gros il y a un lion qui tyrannise les animaux, voilà, et finalement le lièvre va trouver le moyen de l'éliminer. Alors comment est-ce qu'il fait? C'est que il lui montre un puits, et le lièvre fait croire au lion que ce lion a un rival plus puissant que lui. Le lion régulièrement demande à être nourri en viande par des animaux qu'on va sacrifier. Et à un moment, les animaux lui disent « Bon, on n'a plus rien à te donner parce qu'il y a un lion encore plus vorace que toi. » Alors l'autre n'est pas content et il demande à le voir. Et finalement, on lui montre un puits. Alors, évidemment, il voit... Quand il vit au milieu du puits son image dans l'eau, il poussa un rugissement. Puis par l'écho de ce rugissement, un cri deux fois plus fort s'éleva du puits. En entendant ce cri, Basuraka, le lion, pensa « Ce lion est très fort ». Il se jeta sur lui et perdit la vie. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. Ouais, le lièvre persuade le lion méchant qu'il a un rival, il l'amène au bord d'un puits, il croit voir son rival, il se jette sur lui et passe, il tombe peut-être la première. Voilà. Alors, autre exemple de ce style très elliptique, c'est l'histoire. C'est le lion, le taureau et le chacal. Alors là, je ne vous donne pas le texte du Panchatantra parce que ça se déroule, c'est vraiment un récit très long qui en fait est entrecoupé de récits dans le récit. Alors ils ont extrait la substance et voilà donc le chacal qui va débarrasser ses congénères de deux animaux qui les embêtent, un bœuf qui est en fait un zébu et un lion. Et en fait, il suscite la zizanie entre eux. Il explique à chacun que l'autre dit du mal de lui. Alors, au milieu, c'est très mal conservé, mais on voit quand même la queue du lion, là. Ils se battent, et du coup, ils s'entretuent. Voilà. Et alors, la morale de l'histoire qui est donnée, c'est évidemment l'union fait la force. Voilà. Donc, ça, c'est typique de la façon dont sont représentées ces histoires. Alors, un autre récit, qui est aussi dans le Panchatantra, enfin, qui n'est que dans certaines versions, c'est l'histoire du tigre ressuscité. Alors, là, voilà ici en couleur, et voilà en dessin. Alors, quelle est l'histoire? Trois hommes qui se croient savants, dans le récit indien, ce sont des brahmanes, trouvent le squelette d'un animal qui n'arrive pas à identifier. Alors, voilà, ici à gauche, l'un d'eux qui va exposer sa théorie sur ce que ça peut être. Alors, celui au milieu trouve la peau et avec un bâton ou un couteau, la remet sur le squelette. Et celui de droite, par un tour plus ou moins magique, ressuscite le tigre. Et évidemment, il se fait manger. Voilà. Et en fait, ce qui n'est pas indiqué ici, c'est ce qu'on trouve dans la version indienne, c'est qu'il y a un quatrième sage qui est le seul vrai sage, qui lui s'est déjà réfugié dans un arbre. Bon. Alors, seule transposition, mais elle n'est pas étonnante, par rapport à l'original indien, c'est que dans l'original indien, c'est un lion. Et ici, c'est un tigre. Mais c'est assez normal, assez souvent dans l'art sogdien, les lions deviennent des tigres, parce que le lion, à l'époque concernée, ne fait plus partie de la faune locale, alors que le tigre, oui, il y a eu des tigres jusque dans les années 50. Par exemple, pour ceux qui sont allés à Samarcande, vous savez qu'il y a la... Sur la place du Régistan, il y a la madrasa Shirdor, ça veut dire celle qui a un lion, et qui représente en fait la conjonction astrologique du signe du lion, du soleil et du capricorne. Et le lion, en fait, c'est un tigre, mais à qui qu'on a affublé d'une crinière pour faire lion. Donc les artistes ne savaient plus vraiment ce que c'était qu'un lion, mais ils savaient ce que c'était qu'un tigre. Alors c'est ce qu'on a ici. Alors la morale de l'histoire, alors cette histoire devait être assez populaire parce que c'est une des deux seules qui existent dans plusieurs maisons. Alors juste à côté, parce que souvent, je vous l'ai dit, hein, les histoires sont groupées un peu par affinité de thèmes. Alors juste à côté, on a l'histoire du singe qui... fracasse le crâne d'un forgeron avec une hache. Alors on a pensé, on n'a pas la version écrite de cette histoire, on a pensé que c'est la vengeance de l'animal que le forgeron a asservi. Et donc la morale commune de ces deux histoires, ce serait éviter la présomption envers les animaux, parce qu'ils peuvent être plus malins que nous. Voilà. Alors, encore une autre histoire qui, sans doute, correspond au Panchatantra. Dans le Panchatantra, c'est l'honnête homme et le fripon. Alors ici, donc, Marchak l'a appelé l'arbre témoin. Alors, c'est pareil, le texte est trop long pour que je je pense pas que je l'ai reproduit, non, parce que c'est trop long, mais je vous le résume. Un homme, un marchand, est parti en Inde, ou parfois avec un associé, il part en Inde et il fait fortune. Alors, c'est exprimé ici, à gauche, par ce personnage qui a retroussé sa tunique pour pouvoir voyager plus facilement, il a chaussé ses bottes et il est derrière des éléphants. Donc il va en Inde, où il est en Inde. Il ramène un trésor qu'il cache sous un arbre. Mais finalement il se fait tromper par son associé et l'associé vole le trésor. Donc ici à droite, les deux, le plaignant et celui qui est accusé, se retrouvent devant un juge. Comme d'habitude, ce juge est représenté en fait comme un Indien. Et il lève le doigt, il délivre une sentence, et on ne comprend pas très bien ce que vient de faire. Alors, probablement, ce pot, c'est celui que le marchand a trouvé vide en allant le déterrer sous l'arbre, ou peut-être c'est le voleur qui le montre au juge pour faire croire que c'est lui qui a trouvé le pot vide et que c'est l'autre qui avait volé l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite coupe-là ? Alors, voilà, le juge décide que un certain arbre dans la forêt, peut servir de témoin. L'arbre où le trésor a été enterré va, sous l'effet d'un espèce de charme magique délivré par le juge, l'arbre va parler et va dire ce qu'il a vu. Et donc ici, on a probablement le marchand qui tient une coupe, alors peut-être une libation à la divinité de l'arbre. Peut-être, Marchak a supposé aussi, c'est que quand il a cherché son trésor au pied de l'arbre, il n'a trouvé que le couvercle du pot, vide. Et donc c'est ça qu'il exhibe. Alors, voilà l'histoire, racontée simplement en trois scènes. Alors évidemment, on a et on n'a pas la fin. Alors si on prend la fin dans le récit indien, dans le Panchatantra, en fait, le voleur a envoyé son père se cacher dans le tronc de l'arbre, le tronc creux de l'arbre. Et quand on l'interroge, le voleur fait croire qu'il est la voix de l'esprit de l'arbre. Et il accuse le marchand d'avoir menti. Ce sur quoi le marchand met le feu à l'arbre et le papa est brûlé, sort est brûlé et la machination est éventée. Donc c'est pareil. Ouais, on a ces éléments et puis il faut faire avec. Voilà. Il y a une autre histoire d'arbre habité qui est à côté, peinte à côté, et qui n'est sans doute pas la même. Voilà, c'est les thèmes, les histoires se raccrochent par des, on appelle ça des concaténations. Il y a des détails qui permettent de raccrocher d'une image à l'autre. Alors ici, on appelle ça l'esprit de l'arbre, et là, c'est pas évident de trouver la source. Ce qui semble le plus proche, c'est un récit bouddhique, c'est dans un récit, une jataka, c'est-à-dire les récits des vies antérieures du Bouddha. La Maharajanika Jataka numéro 393. Quelle est l'histoire? Des marchands en voyage, qui sont en train de mourir de soif, trouvent un arbre miraculeux dont ils pensent que les branches sont gorgées de sève. Alors, ils coupent une branche d'où sort de l'eau, qui les désaltère. Et puis du coup, enhardis, ils continuent en coupant les autres branches, et alors, de la branche suivante sort de la nourriture, de la branche suivante sortent des femmes, 25 par marchand. Voilà. Et de là, finalement, sortent des joyaux. Alors, à la fin, le tronc mutilé se venge en les avalant. Alors, on aurait ici, selon Marchak, une variante qui n'est pas attestée par ailleurs, où seule sort de l'arbre la femme. Voilà, et ce personnage, on voit très bien qu'il a coupé la branche. Alors, à la fin, il est avalé par le tronc. Alors, est-ce que le tronc, est-ce que la femme est en fait une sorcière qui a voulu attirer l'autre? Est-ce que c'est le tronc qui s'est vengé? Et alors, il pourrait y avoir un happy end. C'est que le garçon se jette dans le tronc pour rejoindre la fille au pays des fées. On peut imaginer ce qu'on veut. Bien. Par rapport à Marchak, Monica Zin, qui est donc une indianiste de Leipzig et qui est une grande spécialiste de l'iconographie, notamment l'iconographie des contes bouddhiques dans l'art bouddhique du Xinjiang, elle a dans cet article, elle a un peu critiqué, l'article est dédié à Marchak, mais elle l'a un peu critiqué en montrant que parfois il a trop tiré du côté du Panchatantra, alors que les sources pouvaient être plus diversifiées et que notamment il faut accorder une certaine importance aux contes bouddhiques. Le Panchatantra n'est pas spécifiquement bouddhique, c'est une ambiance indienne, brahmanique plutôt, on ne trouve pas tellement d'allusions au bouddhisme. Mais alors, dans les contes bouddhiques, il y a évidemment les Jataka. Alors, dans la collection UNESCO, il y a un volume, hein, les vies antérieures du Bouddha, tout ça est accessible. Et puis, il y a une autre source bouddhique à laquelle elle accorde de l'importance, c'est le Vinaya des Moolas Sarvastivadin. Alors, qu'est-ce que c'est? Les Moolas Sarvastivadin, c'est une secte bouddhique du Hinayana, dont il se trouve qu'elle était, cette secte-là étaient répandus justement dans près de l'Asie centrale, en Asie centrale. Ils sont attestés au Cachemire, au Gandhara et également au VIe siècle à Termez, donc vraiment tout près de la Sogdiane. Et le Vinaya, alors le Vinaya, c'est le traité de discipline. Alors chaque secte bouddhique avait son Vinaya. Mais les Vinaya étaient illustrés d'anecdotes pour justement faire passer le message disciplinaire. Il y avait des petites histoires dedans. Et donc ce Vinaya des Mula Sarvastivadine, qu'on connaît par diverses versions, on a du sanskrit, mais on a aussi des versions tibétaines, chinoises, tout ça se complète, ce serait l'une des sources des peintures, de ces peintures de Penjikent. On va en voir certaines maintenant. Il nous est connu dans le monde centra-asiatique par un recueil de contes qui s'appelle le Senbad Name, autrement connu comme le livre des sept vizirs. Ça dérive du Vinaya des Mula Sarvastivadine et c'est probablement assez proche de la source qu'utilisaient les peintres sogdiens. Le Senbad Name, tel qu'il nous est parvenu, a été mis en prose persane au Xe siècle. Et figurez-vous où ça ? À Samarcande. Donc, c'est une des grandes productions littéraires de la Samarcande médiévale. Il n'y en a pas tellement. C'est sous la dynastie des Karakhanides. Ces contes circulaient encore dans la région, c'est évident. D'ailleurs, quand on voit, je me suis amusé à relever les lieux où sont supposés se dérouler les différentes histoires, bah assez souvent, on voit justement les régions de la Moudaria, Ghazni, Kaboul, le Cachemire. Ça a l'air de circuler dans la région, alors que dans le Panchatantra, soit les contes ne sont pas localisés, on dit dans un pays lointain, au bord de l'océan, soit c'est un peu partout en Inde. Voilà. Alors, le livre des sept vizirs a été donc, dans la forme qui nous est parvenue, rédigé par Zahiri de Samarcande. C'est de la prose persane entrecalée de poèmes arabes. Zahiri dit lui-même qu'il est passé par des intermédiaires multiples. C'est-à-dire qu'il a traduit son texte d'après, en fait, un texte arabe, qui était lui-même traduit du Pélévi. Donc, une histoire un peu comme le Panchatantra qui devient le livre de Galilée et d'Hémenée, y a une transmission multilinguistique. Alors, en français, on a... Le texte de Zahiri a été édité en persan, très bien édité, et en français, on a un accès commode par cette traduction qui est paru dans la collection UNESCO d'œuvres représentatives, il y a assez longtemps, hein, en 1975, édition Sindbad, comme par hasard le Sindbad Namé, édition Sindbad, traduit par Dejan Bogdanovic, mais avec une révision assez considérable par Gilbert Lazare. Alors, cette traduction, elle est très agréable à lire, c'est très drôle, mais bon... On va dire, c'est ce qu'on appelait au XVIIIe siècle une belle infidèle. C'est-à-dire que, quand on compare au texte, c'est quand même assez... il a sauté pas mal de passages, il a pas mal réécrit. Mais enfin, ça donne une bonne idée du texte. On peut supposer, donc, vu l'endroit où sont localisés les contes, qu'il devait y avoir des versions sogdiennes, peut-être même des versions bactriennes, puisque il y a pas mal de contes qui sont localisés dans l'Afghanistan actuel. Alors, les exemples les plus significatifs. Vous voyez tout de suite que là, on a un style beaucoup moins elliptique. Hein. Il y a 5 scènes. On a le détail. C'est le conte des singes, des éléphants et de la femme qui joue avec le bélier. Alors, voilà, il est ici, dans la, donc, la version française du Sinbad Namé, et j'ai délimité par ses traits les passages qui sont illustrés sur la peinture. Alors, je ne vous lis pas tout, mais en gros, les singes sur la montagne, voilà, le roi des singes sur la montagne avec sa femme voit au loin un bélier qui lutte avec une femme. La femme s'amuse avec le bélier. Ce roi s'appelle Rusbé. Et il dit à ses compagnons, oh là, ça prévoit des malheurs. Il faut partir d'ici. Il faut quitter le pays. Alors les autres ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire. Et c'est un vieux gâteux, disent-ils. Ils ne partent pas. Mais le roi des singes, il s'en va avec sa femme. Et en fait, que se passe-t-il ? Le roi des singes avait prévu ce qui allait se passer. Le bélier, un jour, avait repris ses jeux avec la femme, il la frappa d'un coup de corne. La femme eut grand mal et asséna un coup de pierre sur la tête du bélier. L'animal s'écroula évanoui. Quand il reprit ses sens, la rancune germa dans son cœur et voyant la femme près d'un mur, il la chargea. Celle-ci avait un tison ardent à la main. Elle l'en frappa. La toison du bélier s'enflamma. Pris de panique, celui-ci gagna l'enclos où se trouvaient les éléphants. Oui, ça se passe en Inde, il y a un parc à éléphants. Il se roula contre les bottes de... C'est censé se passer à Hamadan, mais enfin, c'est quand même... ça reste un conte indien. Il se roula contre les bottes de roseaux, dans la litière des éléphants, dans l'espoir d'éteindre le feu qu'il portait. Mais le feu s'étendit aux roseaux. Bientôt, il gagna tout l'enclos. Des éléphants périrent, d'autres furent gravement brûlés. La chose fut rapportée au roi, qui, très affligé, fit venir le chef des cornacs. « Qu'allons-nous faire ? » demanda-t-il. « Pour ceux qui ont péri, il n'y a plus rien à faire, » répondit le cornac. « Quant aux brûlés, il faut les enduire chaque jour de graisse de singe, jusqu'à ce qu'ils guérissent. » Le roi ordonna à ses hommes d'abattre à coups de flèches et de pierres tous les singes qu'ils trouveraient dans la montagne, afin de récolter leur graisse et d'en enduire ensuite les éléphants. De nombreux soldats sortirent de la ville et se répandirent sur les sommets et sur les pentes, faisant pleuvoir flèches et pierres. Les singes désemparés s'écrièrent. « Dites-nous au moins pourquoi vous nous frappez et nous tuez. Il y a des années que nous habitons cette montagne, jamais nous n'avons causé aucun mal qui justifie une telle cruauté. » On leur raconta alors l'histoire du bélier, de la femme, du feu, des éléphants, en leur donnant tous les détails. Et les singes dirent « Nous mériterions un malheur bien plus grand encore pour avoir fait fi des paroles de notre ancien. » Alors, la leçon ici reste assez profondément bouddhique. C'est l'enchaînement des causes. C'est-à-dire que des actions en apparence anodines peuvent en entraîner d'autres, etc., qui font basculer le destin. Alors, maintenant, revenons à la peinture. Je vous dis tout de suite, cette histoire devait vraiment beaucoup les amuser parce qu'elle a été représentée deux fois dans deux maisons, ce qui est vraiment très rare. Alors, bon ben, je vous laisse deviner, hein. Je serai en séance de séminaire, je donnerai la parole à l'assistance. Voilà la femme devant le feu. Donc, on a sauté le prologue. Qui de loin prévoit le malheur, la femme qui jouait avec le bélier, qui lui a acheté une pierre, et le bélier qui a voulu se venger. Elle est devant le feu avec un tisonnier. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que le bélier l'attaque et qu'elle se défend avec le tison. Voilà le bélier. Il est en feu. Vous voyez, sa toison, ça a pris feu. Et il est là, il y a le parc à éléphants. Donc, on comprend qu'il va mettre le feu aux éléphants. Je pense qu'on voit... Est-ce qu'on voit la couleur ? Non, oui, enfin, c'est vaguement jaune. Oui. Ici, donc ça se déroule de droite à gauche, on a le roi représenté vraiment comme un aristocrate sogdien, typiquement avec la longue épée à l'horizontale, la dague à l'horizontale, la massue. C'est un roi sogdien. Il s'enquiert auprès du chef des Cornac. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, bon, là, ellipse, le chef des Cornac lui dit « Il faut les enduire de graisse de singe » et on saute la scène de la chasse dans la montagne où ils vont récupérer les singes. Voilà le singe jeté dans le chaudron pour récupérer la graisse. Et à gauche, on a le roi des singes et sa femme qui sont sur une montagne. Ça, c'est la façon en sogdienne dont on représente les montagnes dans l'arsin. Et ils disent « bye bye », c'est-à-dire qu'ils saluent de leurs mains leur peuple stupide qui s'est laissé exterminer parce qu'ils n'ont pas voulu suivre leur avis. Alors ici, dans cette version, vous voyez, ici, il y a quand même 5 scènes. Ici, on revient au style charade. Il n'y a plus que 3 scènes. Très simple. À gauche, les éléphants en feu. Au milieu, les éléphants, les singes dans la marmite. Et à droite, le singe qui s'en va. Donc, la même histoire pouvait être représentée en détail ou de manière extrêmement abstraite. Alors, le stupide vendeur de santal. Ça, c'est assez intéressant du point de vue sogdien, parce que ici, on arrive sur des réalités qui devaient être familières du public, puisque les sogdiens étaient très engagés dans le commerce du santal. On peut même dire que pour eux, la route de la soie, c'était moins important que la route du santal. Le santal, ça pousse dans l'Inde du Sud et en Asie du Sud-Est. Et on voit par les anciennes lettres de Dun Huang, ces documents, cette correspondance de marchands sogdiens de 314 après Jésus-Christ, que j'ai réédité récemment avec Nicolas Sims Williams, on voit qu'en fait, il est très peu question de la soie et il est beaucoup question du santal. Ils en faisaient une grosse consommation, probablement, on peut mettre ça en rapport avec le fait que ils aimaient les parfums. Et un peu partout dans l'art sogdien, on voit des braséros, des brûloirs, notamment devant des images divines. On a dit des hôtels du feu, c'est pas toujours des hôtels du feu, parfois c'est juste des brûle-parfums. Et comme ils n'avaient pas vraiment accès à l'encens, qui était trop loin, ils utilisaient le bois de santal. Voilà. Donc, c'était vraiment une grande part du commerce sogdien. Alors là, il faut en venir au texte du Senbad Namé. Un jour, arriva dans sa ville un groupe, on parle donc d'un marchand, voilà, un riche marchand. Un jour, arriva dans sa ville un groupe de nouveaux venus qui lui apprit que dans certaines régions sur les côtes de l'océan, le bois de santal était d'un prix égal à celui de l'or brut. L'appât du gain s'empara du marchand qui se dit « Je vais réaliser tout ce que je possède, j'achèterai du santal et je me rendrai dans cette ville. Je vendrai mon santal au prix fort. Je gagnerai ainsi un capital qui m'assurera une richesse suffisante pour le restant de mes jours. » Là, on est vraiment dans la cervelle d'un marchand sogdien. De la sorte, je ne serai plus jamais dans l'obligation de commercer. Je m'installerai dans l'aisance et vivrai désormais dans la quiétude. Il rassembla tout l'argent liquide qu'il possédait, acheta 100 charges de santal et se mit en route vers la contrée en question. Chemin faisant, il se disait, voilà. Lorsqu'il atteignit la région, il se dirigea vers une cité qui était la perle des villes, mais dont les habitants étaient renommés pour leur ingéniosité et leur duplicité. Quand il se trouva à 2 lieues de la ville, la nouvelle se répandit qu'un marchand arrivait qui apportait 100 charges de santal. Un des hommes parmi les plus avisés, les plus habiles dans les affaires se dit « J'ai un peu de santal. Voilà ce marchand qui arrive et qui va faire baisser le prix. Il faut que par quelques ruses je le dépouille de sa marchandise. » Il sortit de la ville sous l'aspect d'un riche négociant en emportant avec lui un peu de santal. Parvenant au campement, il aperçut le marchand mais se tut. Il ordonna que l'on dressât une tente sur le champ et que l'on y brûlât du santal en guise de combustible. Puis il dit, tu laisses en son pays brûler la plante des déserts, ce que tu vas chercher font brûler l'ambre des cassolettes. Bon. Lorsque l'odeur du santal atteignit les narines de notre marchand, celui-ci se leva pour voir d'où elle venait. Il alla de tous côtés, fouilla tous les coins jusqu'à ce qu'il parvint à la tente du citadin. Là, il vit le santal qui brûlait dans le réchaud. Le marchand resta stupéfait et se dit, là où les gens se servent de santal comme bois ordinaire, quel bénéfice pourrais-je tirer? Quel gain pourrait-il résulter d'une tractation? Hélas, ma fortune est perdue. J'ai enduré les peines de 6 mois de voyage, les épreuves et les dangers de la route, et voici que mon voyage se solde par une perte. Il s'approcha du citadin et s'assit comme un pauvre homme, et il lui demanda « D'où viens-tu? Quelles marchandises contiennent ces bagages ?» Le marchand répondit « J'apporte du santal. En dehors du santal, qu'as-tu apporté? Il n'y a que du santal. » Dans nos régions, donc, l'escroc répond, dans nos régions, une charge de santal vaut 1 dinar. Nous nous chauffons d'ailleurs au santal. Pourquoi n'as-tu pas apporté des denrées qui auraient pu te donner un bénéfice qui t'aurait procuré la quiétude? Le marchand resta douloureusement interdit, se plongea dans d'amères réflexions. Évidemment, l'autre brade son santal. Le citadin prit pour témoin de leur accord un groupe d'hommes sûrs et se rendit ainsi propriétaire du santal. Puis il leva son camp et se dirigea vers la ville. Voilà. Le marchand, pensant que cet homme lui avait rendu service et s'était montré miséricordieux envers lui, lui en eut beaucoup d'obligations. Alors après, ça finit par s'arranger parce que dans la ville, il va trouver une femme qui va l'aider, qui va lui révéler que le santal se vend au prix de l'or et qui va l'aider à refaire son business. Alors, voyons maintenant, donc il faut se dire que ce conte, les gens qui regardaient cette peinture le connaissaient ou en connaissaient une version. Et du coup, on voit de droite à gauche. Je pense que ça se déroule de droite à gauche. Voilà la conversation entre le marchand et l'escroc. Alors, vous voyez tout de suite que ça se passe au milieu de ballots de marchandises hein, et l'escroc fait boire le marchand. Mais lui ne boit pas. Il endort sa méfiance et lui raconte son histoire de santal qui sert de combustible. Alors, au milieu, c'est pas bien conservé. Peut-être c'était justement le foyer où l'autre fait brûler du santal. Alors, et ici, c'est probablement le stock de santal que le marchand avait amené et le complice de l'escroc qui, on voit qu'il a, il a chargé ça, on voit les branches de santal, il a chargé ça sur lui et il s'en va vendre ça. Mais vendre ça très cher, alors que le pauvre marchand, il a récupéré presque rien. Et on voit que le santal, ça se vend effectivement en branches, et c'est exactement ce qui est raconté dans les anciennes lettres sogdiennes, puisque il est question de faisceaux de santal, de boisseaux. Donc ça se vendait en fagots, en réalité, et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est un des rares cas où les sogdiens ont vraiment se sont montrés en train de commercer. Voilà. Alors, on peut continuer avec des scènes d'une autre nature. Alors, il y a quelques scènes assez rares, mais quelques scènes de vaudeville. Voilà. Alors, il faut savoir que l'art sogdien il est très pudique. Il n'y a pratiquement pas de nudité féminine. Dans les cas où il y en a, ça se passe au paradis. C'est pas du tout comme l'art gréco-romain. C'est un art très réservé. Mais il y a quand même évidemment des histoires de cocus et des histoires d'amants, non, comme dans toutes les littératures. Alors ici, il y en a deux. Alors, c'est difficile de les identifier à des récits précis. Parce que dans ce genre de littérature, le thème de la femme qui est au lit, qui crie « ciel mon mari », et de l'amant qu'on cache ou qu'on exfiltre, ce sont des thèmes banals. Celui de gauche semble contenir davantage de détails, Et Marchak le rapproche d'un récit du Sindbad nommé L'histoire de l'homme qui collectionnait les ruses féminines. Alors, un homme avait fait vœu de parcourir la terre entière et de noter dans un livre toutes les perfidies féminines. Parce que, voilà, il voulait se mettre en garde pour le jour où il se marierait. Il voulait. Voilà. Alors, mais alors à la fin, il a terminé son périple. Et il est tout content, et il est accueilli par une femme à qui il raconte pourquoi il voyage, etc. Et la femme se dit « Mon pigeon, je vais t'avoir ». Et du coup, c'est une femme mariée, hein. Donc du coup, elle le séduit, finalement, bon, le mari revient, et elle arrive à le faire sortir, etc. Le collectionneur d'anecdotes sur la perfidie des femmes s'avoue vaincu et il brûle son livre en disant « Toute l'expérience que j'ai acquise pendant tous ces voyages ne m'a servi à rien parce qu'on se fera toujours piéger par les femmes. » Voilà. Alors, ça pourrait être une histoire comme celle-là. Marchak pense que, vous voyez, il y a une espèce de personnage de grotesque, un peu clownesque, qui est à moitié nu et qui s'en va en faisant un signe d'adieu à la main. Donc, ça pourrait être lui qui s'en va après avoir compris qu'il s'était fait tromper. La femme est au lit et elle fait sortir de l'autre côté deux autres amants. Alors, eux, soit ils ont eu le temps de se rhabiller, soit ils sont arrivés après. En tout cas, qu'est-ce qu'elle a fait du mari? Le mari, il est là, parce que comme il est revenu à l'improviste, elle lui a dit, avant de te mettre au lit, allume un feu pour réchauffer. Donc, il se chauffe devant le feu et du coup, il ne voit pas ce qui se passe dans la pièce. Il ne voit pas qu'il y a trois hommes déjà dans la pièce. Bon. Donc, ça pourrait être une histoire comme celle-là. Ici, c'est moins clair, mais enfin, on voit la femme, elle est au lit, et là, ce personnage a l'air de s'enfuir, qui n'a pas l'air très vêtu, a l'air de s'enfuir rapidement. Alors, maintenant, il y a, donc, on a vu, on a passé en revue le Mahabharata, les divers recueils indiens, voilà, Panchatantra, Sindbad Namé, etc. Il y a aussi des sources folkloriques qui ne se laissent pas vraiment identifier. Ou plutôt, voilà, en voilà une qui a dérouté nos collègues quand ils l'ont trouvée. Alors, c'est pas fait par un peintre très professionnel, hein. C'est visiblement du barbouillage. Alors, quand ils ont trouvé cette scène, ils ont eu la bonne idée d'aller au musée local de Penjikent et consulter les recueils de folklore tadjik. Et ils sont tombés sur un conte qui est illustré ici. C'est un cheval. Dans le conte, c'est un âne, mais ça ne change pas grand-chose, qui aimait, n'est-ce pas, des pièces d'or. C'est un peu comme l'histoire de la poule aux œufs d'or. Voilà son propriétaire qui le tient là, parce que, et en fait, le conte se continue. Le roi, finalement, décide, exige du propriétaire du cheval miraculeux qu'il le lui remette. En fait, donc, dans le conte, c'est un âne. Mais une fois arrivé chez le roi, le cheval, fidèle à son maître, se met en grève et n'aimait plus rien. Et du coup, le roi est obligé de rendre son bien au malheureux propriétaire. Et c'est quand même extraordinaire. C'est une peinture probablement des années 740 et on a trouvé l'explication en allant au musée voisin chercher les histoires du folklore tadjik. Alors, des histoires qu'on ne trouve pas dans des recueils constitués, mais qu'on a dans les, disons en gros, les folklores indo-européens. Bien. Alors, on avait vu La Belle et la Bête, selon l'interprétation de Semyonov, qui serait donc, qu'on retrouve dans la classification des motifs universaux du folklore chez Arne Thompson. Et ici, alors là, une histoire qu'on n'arrive pas à trouver, c'est la chasse au loup à sept têtes. On a un loup qui a sept têtes, il est chassé par deux énormes molosses. Alors, on comprend vaguement que le chasseur n'est pas dans une très bonne position parce qu'il n'a qu'un fouet. C'est pas avec ça qu'il va chasser le loup à sept têtes, mais apparemment quelqu'un derrière vient l'aider. En courant, il a retroussé sa tunique dans sa ceinture, et c'est lui qui a l'air de contrôler les chiens qui finalement vont avoir raison de la bête. Alors, bon, les bêtes à sept têtes, ça se trouve dans diverses légendes. Bon, il n'y a qu'à penser, hein. C'est l'hydre de Lerne dans certaines versions. Et puis, la plus connue des bêtes à sept têtes, c'est la bête de l'Apocalypse. Bien. Alors, les sept têtes, en l'occurrence, sont chacune identifiées à un empire spécial. Bon, y avait cette idée que le monstre par excellence, c'est la bête à sept têtes. Mais pour le loup, on ne trouve rien. J'ai cherché dans Arne Thompson, loup, sept têtes. On ne trouve pas. Mais, visiblement, la légende existait. Alors, un détail intéressant, c'est la seule chasse au loup de toute la peinture sogdienne et même de toutes les scènes de chasse iraniennes pré-islamiques. On chasse toutes sortes de bêtes. On avait vu ça ici, il y a quelques années. La chasse au loup n'est jamais montrée. Alors qu'on sait qu'elle existait, il y avait des battues au loup, c'est raconté. Il y a même un mois dans le calendrier iranien pré-zoroastrien qui s'appelle le mois où on chasse le loup. C'est jamais montré. Pourquoi ? Probablement parce que c'était pas une chasse valorisante. C'est-à-dire qu'un aristocrate ou un roi n'allait pas s'abaisser à se montrer en train de chasser le loup. Chasser du loup, un loup, c'est de l'extermination de nuisibles. Ça pouvait être laissé aux paysans. C'était pas une chasse glorieuse. Or, ici, on a une chasse au loup, mais comme par hasard, ce loup est un monstre dangereux. C'est pas une vraie chasse au loup. Alors, pour conclure, vous avez bien compris que depuis le début de ce cours, nous n'avons que le sommet de l'iceberg. Même si le répertoire des contes continue de s'enrichir par la découverte de fragments et l'identification de nouveaux sujets dans la peinture, notamment de Penjiket. Mais on voit quand même que tout ça, c'est très imaginatif, mais c'est emprunté. C'est adapté aux réalités centra-asiatiques, mais c'est emprunté. Alors, on peut se demander, est-ce qu'ils ont eu une littérature vraiment originale de création ? Alors, je pense qu'on approche ça avec certains des récits épiques qu'on a vus, qui montrent quand même, dont certains ne peuvent pas être, comme le récit avec les Amazones, ne peuvent pas être identifiés à des récits qu'on connaît, et où on voit qu'il y a sans doute eu là une vraie création. Bien. La poésie. Bon. Nous avons vu que beaucoup de ces textes qui nous sont parvenus étaient rythmés, parfois vaguement rimés. Donc la poésie, on voit bien qu'elle a existé, mais des poèmes véritablement originaux. Alors, il y en a un. C'est une inscription sur le col d'une jarre trouvée au Semirechye, c'est-à-dire que c'est actuellement au Kirghizistan, c'était des colonies sogdiennes sur la route de la Chine. Et c'est pas très facile. On a vu tout de suite que c'était rythmé. Pavel Lourier a proposé une traduction améliorée, transcription. Avero etchi kiship neshmar, khep raznu wan, nekeshi urtmarti huar. Ne calcule pas les torts de qui que ce soit, et ainsi ne diminue pas ton propre trésor. Ô homme, bois, atmarti, chouroir. Alors, comme alors on a ça dans beaucoup de poèmes persans de Omar Khayyam ou d'autres, Badébior apporte le vin, etc. Advienne que pourra, etc. Donc Lifshitz, qui est le premier à avoir édité ce texte, a écrit avec pertinence que on voit avec un texte comme celui-là qu'il a existé une poésie élégiaque, bachique dans certains cas, autour du vin, qui devait être riche, mais surtout orale. Bon. Le problème aussi, c'est la date de ce texte, parce que selon Lifshitz, 8e, 9e siècle, selon Lourier, peut-être même 10e, donc une influence de la poésie persane naissante n'est pas impossible à ce stade. Bon. On a retrouvé les principes de la versification en grand détail, comme je l'ai dit au début. Il reste à retrouver les poèmes. Alors, terminons en rêvant. L'un des premiers poètes persans, connu, un des plus, qui est un immense poète, mais dont il est parvenu très peu de ce qu'il avait écrit, c'est Roudaki. Roudaki, c'est quelqu'un qui est né près de Penjikent. Un village un peu à l'est où on a probablement retrouvé sa tombe. Il est né sans doute vers 870 dans ce village de Panjrud. Et Roudaki, il a fait sa carrière en fait à Boukhara, à la cour de Boukhara. Donc c'est un Sogdien. Non. Et il avait, parmi ses œuvres, on sait, ça ne nous est pas parvenu, mais on sait qu'il l'avait écrit, il avait mis en vers persan Kalilei Demne, donc le Panchatantra, il l'avait mis en persan probablement d'après la version arabe d'Ibn al-Mukaffa. Il a fait ça moins de deux siècles après que ses compatriotes de Penjikent aient illustré exactement les mêmes histoires sur leur peinture. Donc, je me plais à dire Roudaki, le dernier des poètes sogdiens, le premier des poètes persans. Et Marchak était d'accord avec cette formule. Je termine avec un poème de Roudaki traduit par Gilbert Lazare et qui probablement nous amène assez près de ce que pouvaient être les poèmes sogdiens. Et le grand espoir, évidemment, c'est qu'un jour on en retrouve un comme ça. C'est le vin qui met au jour la valeur des hommes et qui distingue des serfs ceux qui sont nés libres. Il est le révélateur d'une bonne race. Que de vertus contenues dans cette liqueur. Les plus belles heures sont celles où l'on boit, quand au jardin s'épanouissent roses et jasmins. Que d'altières citadelles le vin sut forcer, et de poulains rebelles le vin sut dompter. Combien de vilains avares firent après boire, sur l'univers étonné pleuvoir les largesses. Voilà, eh bien, c'est terminé pour cette année, avec la littérature sogdienne en peinture.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.